Bonjour, cette semaine à Sans Détour, on reçoit Marie Ayotte, directrice générale du Théâtre Déchaîné, qui nous présente un guide d'introduction à l'accessibilité créative. On reçoit également Hugo Vaillancourt, agent de défense des droits chez Execo, qui nous parle du gouvernement provincial qui songe à facturer en partie un soutien à domicile. Et on terminera l'émission avec Dominique Salgado, directeur général du Cap-Viche. Bonne émission! On rejoint au téléphone Mme Marie Ayotte, directrice générale du Théâtre Déchaîné. Bonjour, Mme Ayotte.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ça va bien, merci. On parlera du Théâtre Déchaîné, mais d'abord, vous avez sorti tout récemment un guide à l'introduction à l'accessibilité créative.
En effet, on a sorti ça le 25 mars passé. L'accessibilité créative, c'est notre démarche à Théâtre Déchaîné pour réfléchir à l'accessibilité des communautés dites de la diversité fonctionnelle dès le début des créations en art vivant. Donc, nous, on est en théâtre, mais on pense aussi à la danse, on pense aussi à musique et en diverses formes de présentation artistique. Et en réalité, on a sorti un guide de 67 pages pour que les artistes, les diffuseurs et les médiateurs culturels, n'importe qui puisse avoir des outils pour penser l'accessibilité dès le début des créations qu'ils font.
Parce que vous êtes un organisme de création de diffusion d'expériences culturelles accessibles, mais vous êtes aussi un organisme de recherche. Donc, ça fait partie un peu de votre mandat que de partager information par rapport à l'accessibilité.
Exactement. En réalité, dans nos valeurs à la base, le transfert de savoir, le partage de savoir et faire de la recherche, ça fait partie. Ce guide-là, c'est 3 ans de travail que j'ai fait avec Andréane Guigard, qui est co-directrice artistique avec moi de l'organisme. Et c'est vraiment là vraiment des très longues, très grosses recherches qu'on a faites auprès de plein d'organismes, de gens, d'artistes pour s'assurer là, que qu'est-ce qu'on dit puisse réellement aider concrètement des gens à penser à l'accessibilité dans leur création.
Donc, on parle particulièrement de l'accessibilité aux spectateurs, aux spectatrices?
Exactement. Nous, c'est notre spécialité, c'est vraiment ça qu'on fait de la recherche. Bien sûr, on pense aussi, on ne peut pas penser à l'accessibilité des artistes, de la diversité fonctionnelle sur scène, mais notre base, à la base, c'est les spectatrices et spectateurs.
Et si vous avez sorti un guide, là, c'est parce que forcément, il y avait des besoins. Où est-ce que vous avez vu, comment vous êtes venu à voir là, qu'il y avait des besoins puis que c'était peut-être pas aussi accessible là, qu'on pensait?
Bien, c'est sûr que là, ça fait 6 ans quand même qu'on travaille là-dedans. On y pensait bien avant ça, mais la compagnie a 6 ans. Et on le voit, c'est bien sûr, il y a de l'accessibilité de plus en plus dans le milieu culturel.
Oui.
Il y a encore des grands manquements, mais il y a quand même plus en plus de réflexion. Mais ça reste qu'habituellement, c'est en fin de parcours. OK, on a fait notre œuvre d'art, puis à la fin, bien, s'il nous reste un peu d'argent, ou si on est capable, on va faire essayer de mettre des interprètes en langue des signes québécoise, ou on va essayer de faire ci, faire ça. Mais c'est rarement pensé dès le début, et ça fait une grande différence. L'accessibilité peut être un moteur créatif incroyable. C'est vraiment ça qu'on veut réfléchir. L'autodescription, par exemple, peut amener à faire des choses artistiques qu'on n'aurait pas pensé à faire autrement. Il y a vraiment des belles choses qu'on peut faire avec l'accessibilité. Et en plus, ben, de rendre ça ouvert à plus de gens, mais pas juste aux personnes de la diversité fonctionnelle, mais à tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça, qui veulent découvrir d'autres choses. Il y a des gens qui, ça les aiderait d'avoir des sous-titres ou de l'autodescription, etc.
Oui, souvent, on pense, donc, quand on pense à l'accessibilité, on pense à l'accessibilité physique des lieux, mais ça va beaucoup plus loin que ça, là.
Ça va vraiment de loin plus loin que ça parce que en réalité, il y a énormément de gens quand même qui vivent diverses situations soit de handicap ou qui les aiderait. Et de l'autre bord, ben il y a des gens qui veulent que, tu sais, par exemple, je sais pas moi, si on parle de la lumière en salle, qui peut aider les personnes, par exemple, neuroatypiques ou anxieuses, mais il y a des gens pour qui vivre une autre type d'expérience avec de la lumière en salle pour à 30%, là, pas très grand, mais quand même, peut les amener à voir d'autres choses, oui. Peut les amener à voir, même peut-être qu'ils ont un peu des lunettes, peut-être que ça les aiderait dans leur vue. Il y a plein de moyens de penser ça. Là.
Oui, puis il y a des gens qui ont juste une sensibilité à la lumière aussi. Hein.
Exactement.
Et c'est... Peut-être que c'est moi là, qui est pas au courant, mais à ce que j'en sais, il y avait quand même peu là, d'outils par rapport à l'introduction à l'accessibilité. C'est-à-dire que les gens, même s'ils voulaient bien faire puis qu'ils voulaient être inclusifs, il y avait quand même peu d'outils à savoir comment on fait ça concrètement.
Ben, c'est exactement le point qu'on a découvert. Quand on a voulu commencer, on s'est mis face à... Il y a très peu d'options. Oui, peut-être que c'est Kérol a sorti quelques guides sur l'accessibilité, mais surtout plus physique, l'accessibilité des lieux. Il manquait quand même beaucoup d'outils pour tous les autres besoins d'accessibilité. Et surtout en culture, quand même la culture a ses particularités. On parle quand même d'œuvres d'art, on parle quand même d'un autre type de réception. Donc, on a fallu qu'on aille chercher quand même plus loin les possibilités, qu'est-ce qui aidait les gens, qu'est-ce qui les aidait pas, et aussi comprendre que, ben, on peut pas faire une œuvre d'art qui puisse accueillir tout le monde en même temps, parce que l'accessibilité de certaines personnes, ben, va être nuit par qu'est-ce qui aide d'autres personnes. Donc,
oui.
C'est ça.
Vous faites bien de le dire. On fait ce qu'on peut, mais en même temps, ça peut venir en contradiction les gens avec les autres. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Il faut regarder le type de clientèle qu'on a envie de faire venir.
Exactement. Puis on peut pas tout faire en même temps, ne serait-ce que d'une façon de ressources, de temps, et de comme on vient de dire, juste d'accessibilité qu'on propose. Donc, c'est vraiment important de réfléchir, mais ce spectacle-là ou cette œuvre-là, cette fois-ci, je vais la réfléchir pour telle communauté, tel type d'accueil, tel type de besoin. En restant très ouvert que tous les gens qui veulent vivre cette expérience-là, qui puissent profiter de ça, on les accueille à bras ouverts, mais on ne peut pas tout faire en même temps parce qu'on nuit aux gens quand on fait ça. Quand on dit « Ah oui, c'est fait pour tout le monde », ben forte chance est, à quelques exceptions près, qu'on va mentir.
Ben en fait, on va tourner les coins ronds possiblement pour essayer de tout faire, là. Puis on va manquer la cible là, sur certaines choses, j'imagine.
Exactement, puis ça reste que si le but est de penser les besoins qu'on cible dès le début de la création, ben on peut pas être en train de faire tous les besoins parce que notre œuvre d'art aussi ne tiendra pas. Ça reste quand même qu'il doit avoir des choix artistiques de fait autant que des choix d'accessibilité, et l'un ou l'autre doit pas être plus important.
Et parlez-nous aussi là, du théâtre déchaîné. Donc, vous avez dit la compagnie a quand même 6 ans. Quel type d'œuvre vous proposez?
On fait vraiment plusieurs types d'œuvres et de spectacles dans différents milieux. On a eu des œuvres au téléphone et sur le web pour assurer que les gens qui ne peuvent pas se déplacer puissent avoir quand même accès à de la culture. On fait des spectacles là, dans les résidences CHSLD et autres pour aller au-devant de personnes aînées. On a eu un spectacle aussi pour les personnes avec des troubles neurocognitifs, début d'Alzheimer, ce genre de choses-là. On prépare un spectacle avec les Muses en ce moment, qui est une école spécialisée avec des artistes neurodivergents et ou avec une déficience intellectuelle. Et on fait un gros spectacle en co-création pour les adolescents en ce moment. On est en résidence en ce moment. On a vraiment plusieurs projets là, comme ça pour assurer de parler à diverses communautés. D'ailleurs, plus tard cette année, on a aussi un gros projet de co-création avec des citoyens et citoyennes aveuglés ou amblyopes qui voudraient faire de la création théâtrale avec nous. Donc, on travaille vraiment sur plusieurs fronts pour assurer là, une citoyenneté culturelle élargie. Là.
Vous manquez pas de projets, mais parlez-moi quand même, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, vous parliez d'œuvres par téléphone, et là, j'ai de la difficulté à comprendre de quoi on parle.
c'est ma spécialité, c'est j'adore écrire ça personnellement. C'est moi qui écris beaucoup des œuvres de ce genre-là à Terre déchaînée. Donc, en réalité, c'est des œuvres où qui sont jouées comme en direct. D'ailleurs, par exemple, on a eu fait en 2020 et 2021, tantôt demain peut-être, qui était une œuvre téléphonique pour un spectateur à la fois. Donc, il y a une comédienne qui est là en direct et qui jase et qui fait le texte. Et là, il y avait l'interaction, donc le spectateur peut répondre. Et c'est vraiment une œuvre d'art, mais jouée au téléphone. Donc, on peut faire des choses différentes qu'on peut faire sur scène. On peut murmurer, on peut discuter, on peut être anonyme. Il y a plein de possibilités avec le théâtre téléphonique.
Oui, je comprends.
Que personnellement, on adore à Terre déchaînée. Ça donne aussi une opportunité aux gens qui sont proches aidants ou qui ne peuvent pas se déplacer pour plein de raisons d'avoir accès à du théâtre.
Et est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font ça au Québec?
Non, ben, je dis pas qu'elles n'ont jamais fait, mais on sait qu'en 2020, on a été la compagnie qui a fait la première pièce spécifiquement pour le téléphone.
Okay.
Mais ça reste quand même, en Europe et aux États-Unis, c'est quand même une tradition qui a presque 50 ans.
Oh, okay.
Ce n'est pas nouveau, mais au Québec, je dois avouer qui penche réellement au téléphone comme une dramaturgie, je pense qu'on est les seuls.
Oui, c'est moins connu, mais c'est quand même, ça donne une accessibilité qui est différente. C'est quand même brillant comme idée, bien que forcément, ça peut être fait pour des plus petits publics, mais ça peut être réfléchi en tant que tel. Là.
Exactement, ça devient son propre moyen créatif de l'accessibilité créative où on pense l'œuvre autrement.
Oui.
Et en même temps, c'est accessible. C'est vraiment ça.
Et comme vous dites, ça donne toute une nouvelle créativité à l'œuvre pour quelque chose qu'on n'aurait pas pensé autrement. Donc, au niveau créatif, c'est très intéressant. Et vous nous avez parlé donc de différents projets qui vont avoir lieu au niveau de cette année. Vous êtes un peu partout. Est-ce que, j'imagine là, qu'au niveau des subventions, ça doit être difficile d'avoir des subventions pour ce type de théâtre-là, surtout ces jours-ci, en contexte évidemment où on fait face à plusieurs coupures?
On va pas faire semblant. On a la particularité de devoir être dans le milieu des arts, qui a ses propres enjeux financiers, et le milieu de l'accessibilité, enjeux financiers.
C'est ce que je me disais.
On met ça ensemble. On réussit à trouver notre chemin, à essayer de penser à des partenariats, à trouver des fois des moyens de faire financer ça. Ça reste quelque chose sur lequel je suis très passionnée, de réfléchir au financement en culture. Mais c'est sûr, on va pas se faire semblant. Ça reste dur. Il y a plein d'obstacles. On doit penser notre temps différemment. Les ressources financières ne sont pas les mêmes pour pouvoir assurer l'accessibilité de tout le monde. Donc, c'est sûr que ça vient avec des gros défis. On ne va pas se mentir.
Ça aussi, j'imagine qu'il faut être créatif, là.
Il faut être extrêmement créatif. Il faut vraiment penser, est-ce que cette tube-là dans un autre département pourrait faire l'affaire? Est-ce que ce partenariat-là serait une bonne idée qu'on n'aurait pas pensé? Mais là, c'est exactement. Il faut être créatif aussi là-dedans pour assurer que les choses se fassent.
En terminant, qu'est-ce qui vous a donné le goût là, d'ouvrir cette compagnie-là puis de vous spécialiser dans ce type de théâtre-là?
Ben, étant moi-même une personne en situation de handicap, c'est sûr que c'est une réflexion qui est de voir l'accès. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une passion quand, avec la pandémie qui est arrivée, de faire, parce qu'au départ, on a ouvert juste avant la pandémie, on n'avait pas fait notre premier spectacle. Et là, la pandémie est arrivée, on a fait, mais il y a tellement de réflexions à faire avec ça. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut amener une accessibilité à tout le monde? Donc, c'est vraiment une réflexion d'égalité des chances et de l'égalité à l'accès de la culture que je trouve qui manque.
La pandémie a presque aidé votre réflexion, finalement.
Honnêtement, pour nous...
C'est rare qu'on entend ça, là. Mais...
C'est vraiment rare, mais pour nous, j'ai probablement pas fait mon premier show au téléphone sans la pandémie, puis tout ça a découlé après d'une réflexion mais voir tout ce que ça donne accès, pourquoi on fait pas plus là-dedans? C'est vraiment ça qui est arrivé.
Donc, en terminant, rappelez-nous, où est-ce qu'on peut voir le guide? Le guide est accessible en ligne gratuitement, donc pour ceux et celles qui voudraient le consulter?
Oui, ils peuvent, on peut télécharger sur notre site web www.théâtredeschaînésavecunf.com. C'est gratuit. Le document est accessible avec lecteur d'écran. Et ils peuvent, sinon, il y a quoi que ce soit, on peut nous écrire, on va vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Donc, on est toujours rejoignable s'il y a quoi que ce soit.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance dans vos nombreux projets de cette année et des années futures. On espère vous revoir dans toutes sortes de projets accessibles.
Merci beaucoup.
En attendant que M. Valancourt soit joignable par M. On est avec M. Sagadou? Non, je pense que c'est toi qui te trompes, Mathieu. On est avec M. Valancourt. Est-ce que tu confirmes, Mathieu?
Je confirme.
Merci, Mathieu. Est-ce qu'on essaie de joindre la bonne personne?
Oui, tu peux faire ta brève, puis je vais appeler pendant ce temps.
Donc, j'allais dire, donc, on fait une brève nouvelle. Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de Genève fait appel à des chuchoteurs d'images pour promouvoir l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Donc, comme le nom l'indique, des chuchoteurs d'images, c'est des gens qui vont accompagner les personnes en situation de handicap pour chuchoter ce qu'ils voient pour que la personne en situation d'handicap, particulièrement évidemment en situation d'handicap visuel, puisse voir à travers les yeux à quelqu'un d'autre. Donc, la personne va vraiment lui parler de ce qu'elle voit, de ce qu'elle perçoit, et laisser la personne en situation de handicap interpréter pour être capable de voir des œuvres qu'elles ne peuvent pas voir par rapport à une situation de handicap. Donc, j'ai trouvé ceci intéressant. Peut-être avec des bénévoles, on pourrait faire la même chose au Québec hein, pour que les personnes qui ont des handicaps visuels puissent accéder à des musées, alors que peut-être qu'on n'a pas tout le financement pour avoir accès à des œuvres plus à des moyens plus technologiques de rendre les œuvres accessibles. On est maintenant prêt à recevoir donc M. Vaillancourt.
Oui.
Bonjour M. Vaillancourt.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, très bien.
Donc M. Vaillancourt, vous êtes agent de défense collective des droits chez Execo. Execo, oui. Qu'on connaît bien là, pour tout le travail que vous faites en lien avec la défense des droits des personnes en situation de handicap. Et cette semaine, vous avez donc répondu à un article de journal là, qui disait que finalement, la ministre songeait à facturer une partie du soutien à domicile. Donc, c'est un article qui est paru le 18 mars dans Le Devoir, qui confirmait l'intention donc de la ministre Sonia Bélanger d'imposer donc de tarifer le soutien à domicile pour les personnes qui en auraient besoin.
Oui, c'est bien ça. On a rédigé une réponse à ça en fait pas longtemps après l'article. On l'a soumis au Devoir, qui l'a malheureusement pas publié, mais ensuite, par la suite, on l'a fait sortir sur notre site Internet.
Oui, donc c'était sur vos réseaux. Ça vous inquiète de oui. voir, évidemment, de voir que la ministre, le gouvernement voudrait tarifer l'aide à domicile. Donc, l'aide à domicile, là, pour ceux et celles qui seraient moins au courant, là, c'est les personnes donc qui reçoivent des services de la part du gouvernement pour, par exemple, des services de soins d'hygiène ou des services de différents types là, pour aider dans le maintien à domicile de ces personnes-là.
Oui, c'est bien ça. Puis pour nous, c'est taxer le handicap. C'est littéralement ça.
Oui.
C'est dire aux gens, « Hey, tu as une limitation fonctionnelle, tu as besoin d'aide pour sortir du lit ou pour t'habiller. Ben écoute, si tu as moindrement plus d'argent que le seuil de la pauvreté, ben il va falloir que tu payes de ta poche pour ça. »
Et forcément, ça peut... Pardon, Izzy.
Oui, bien, alors que le gouvernement pourrait... Si le gouvernement tient à faire payer les gens en fonction de leurs revenus, bien, il y a une mesure pour ça, ça s'appelle l'impôt sur le revenu.
Oui.
Au lieu de faire payer plus les gens plus fortunés par les impôts ou demander aux entreprises de contribuer plus au réseau de la santé, s'il existe une contribution des entreprises là-dessus, bien, ils préfèrent faire payer le monde parce qu'ils sont dans une situation d'handicap.
Oui, il y a toujours moyen de faire payer des gens qui sont peut-être moins en situation vulnérable, mais je ne sais pas pourquoi le gouvernement y pense rarement.
En fait, c'est en réponse. En 2023, la commissaire à la santé et au bien-être a sorti un rapport sur le soutien à domicile. Et c'était une des recommandations que le gouvernement pour... il appelait ça « assurer la viabilité financière du soutien à domicile », que le gouvernement commence à charger le monde en fonction de leurs revenus. La commissaire à la santé et au bien-être dit que un de leurs sondages montre que les Québécois sont d'accord avec ça, mais le bout qu'elle dit pas par rapport à son propre sondage, c'est qu'ils ont juste sondé du monde entre 55 et 69 ans, qui sont plus éduqués, qui sont de la classe moyenne, puis qui vont dire « oui, soutien à domicile dans 10-15 ans, je suis prêt à payer une partie parce que tu sais j'ai plus d'argent. »
Oui, voyons.
Mais ils n'ont aucunement consulté les personnes en situation de handicap qui, aujourd'hui, sont des adultes qui peuvent aller à l'école, avoir un job, être des parents qui élèvent des enfants, qui ont une vie sociale, puis qui utilisent déjà le soutien à domicile au quotidien. Puis ils leur ont aucunement demandé si eux, ça leur tentait de payer.
Non, mais ça, tu sais, c'est souvent, on demande pas aux personnes handicapées leur avis avant d'imposer ce genre de choses, donc c'est pas surprenant. Par contre, vous le dites bien, hein, c'est une taxe supplémentaire, c'est-à-dire que ça coûte déjà plus cher d'être en situation d'handicap, oui. Là, c'est prouvé par différentes études, et donc c'est un coût supplémentaire, là.
Oui, puis quand le gouvernement a commencé à parler qu'il envisageait de tarifer le soutien à domicile en fonction du revenu, au mois de décembre, la Commission des droits de la personne est sortie contre ça.
Oui.
Puis elle a dit que ce serait un recul de 35 ans sur le principe qu'on a adopté au Québec que les gens ne devraient pas avoir payé plus financièrement parce qu'ils ont des limitations fonctionnelles. Et ça serait vraiment revenir sur... Bon, puis entendons-nous, c'est bien et partout au Québec, comment on traite avec ça.
Oui,
mais
voilà.
C'est clairement un retour en arrière sur cette idée-là, là, puis ça va contre ça.
Et est-ce que vous avez des actions que vous allez mettre en place si jamais ça va de l'avant à ce niveau-là? J'imagine que là, on attend de voir la décision finale.
Oui. Mais écoutez, nous, on n'attend pas d'avoir la décision finale. On vient de lancer une campagne qui s'appelle la CAQ Handicap.
OK, vous avez déjà des actions.
Okay. Oui, on vient de lancer une campagne qui s'appelle la CAQ Handicap. Parce qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer, le gouvernement fait une attaque en règle sur les droits des personnes en situation de handicap. Parce qu'il y a eu des coupures dans le soutien à domicile, des coupures au chèque emploi service, la nouvelle qui vont tarifier, qui pense à tarifer les gens en situation de domicile, le programme d'adaptation domicile qui a été suspendu.
Oui, qui a été suspendu aussi, oui.
Budget, ils ont mis un peu d'argent pour répondre aux anciennes demandes, mais ils n'acceptent plus de nouvelles demandes. Ils refusent de faire plus d'ascenseurs dans le métro à Montréal. Ils ont coupé aussi dans le CIT, le contrat d'intégration au travail. Alors, nous, on a commencé à organiser des rencontres de mobilisation plus autour du chèque emploi service. En fait, on a eu mercredi après-midi. S'il y a des gens que ça intéresse de venir discuter de qu'est-ce qu'on peut faire comme moyen de pression, vous pouvez contacter Execo puis on peut vous dire comment participer à la réunion. Mais aussi, le 14 mai, il va y avoir une journée de concertation à Québec que plusieurs organismes sont invités à se prononcer sur la nouvelle politique de soutien à domicile, celle dans laquelle ils pensent à faire des gens pour soutien à domicile. Puis on veut organiser une action pour dénoncer ce que le gouvernement s'apprête à faire avec tout ça. Alors, tu sais, je tiens à dire aux gens qui nous écoutent que, tu sais, on n'est pas impuissants.
Non, il y a fort du nombre ici. Là.
On peut participer à ça. Les personnes en situation de handicap ont des droits parce qu'elles sont battues pour ça. Puis en fait, le soutien à domicile existe au Québec parce que les personnes en situation de handicap se sont battues dans les années 70 pour avoir le soutien après la désinstitutionnalisation pour pouvoir rester chez elles.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suis obligée de vous couper, mais les gens qui sont intéressés donc à vos actions peuvent aller sur votre site Internet pour en savoir plus et se mobiliser avec vous.
Oui, execo, execuo.net.
Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. C'était Hugo Vaillancourt, agent de défense collective des droits chez Execo.
Oui, au revoir. Bonne journée à vous aussi.
Vous écoutez Sans détour.
On rejoint maintenant Dominique Salgado, directeur général du CAVIS et secrétaire du CA du COPAN. Donc, bonjour, M. Salgado.
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même.
Oui, merci.
Donc, on parle du CAVIS, qui est le comité d'action des personnes vivant en des situations de handicap.
Oui, exactement.
Et on commence par mentionner que vous avez été... vous avez reçu la médaille du couronnement du roi Charles III en février 2025, donc tout récemment.
Oui, exactement.
C'est une médaille donc qui vient souligner votre engagement dans la société québécoise. Donc bravo pour ça.
Ben merci beaucoup. Ça c'est la société québécoise, mais aussi la grandeur du Canada.
Oui.
J'ai pu travailler avec des gens extraordinaires. Évidemment, ben écoutez, on travaille pas pour avoir des médailles, mais quand ça vient, on est bien heureux. C'est un grand honneur.
Oui, c'est une belle marque de reconnaissance parce que forcément, là, j'imagine, comme la plupart des gens qui sont dans ce type de milieu-là, là, vous comptez pas vos heures, puis vous en mettez beaucoup. Ça vous prend beaucoup de temps et de ressources.
Hein. Oui, vous avez tout compris. Ouais.
Donc, bravo d'avoir reçu là, cette médaille-là, quand même une médaille prestigieuse là, qui est donnée pour reconnaître les personnes qui ont apporté une contribution importante au Canada. Donc, je voulais commencer avec ça pour vous féliciter, mais allons aussi là, dans le vif du sujet. Oui. Commençons par dire, donc, que vous avez exprimé au CAVIS une indignation par rapport à la disparition du ministère de la diversité, de l'inclusion et des personnes en situation de handicap dans le nouveau cabinet, donc, du fédéral, oui, du premier ministre. J'ai eu un bug parce que je me disais on est en élection, mais il est toujours premier ministre au moment où on se parle. Donc, de Mark Carney, lorsqu'il a pris la place de Justin Trudeau, on a fait donc un cabinet réduit et il a coupé, donc, entre autres, le ministère de la diversité, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, ce qui donne quand même une bonne idée des priorités du gouvernement fédéral.
Oui, ben c'était une annonce assez brutale, une annonce inacceptable, la disparition pure et simple de ce ministère hein, qui était à la défense de la diversité, de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et là, on a effacé complètement, froidement, ce ministère. Et on a muté Mme Kamal Khera. Mme Khera, qui oui. était la principale intéressée, elle était ministre quand même de ce ministère important. Elle a été mutée à la santé, à notre grande surprise. Écoutez, il y a eu beaucoup d'acquis qu'on avait bâti avec Mme Khera et oui. notamment la fameuse prestation canadienne pour personnes handicapées qui va s'instaurer à partir du mois de juillet de cette année. Alors là, on se questionne beaucoup parce qu'on se dit, en abolissant ce ministère, Mark Carney et son gouvernement envoient un message un peu spécial et bizarre parce que les droits des personnes en situation de handicap venaient juste d'être reconnus oui. pour une première fois au Canada. Et là, ben, on se rend compte que finalement, pour M. Carney, c'est pas une priorité. Vous savez, l'histoire nous enseigne souvent que lorsqu'un gouvernement commence à effacer les acquis sociaux, ce n'est jamais de bon augure.
Non,
ce
ça n'est commence jamais mal. Non plus.
Ouais, puis c'est jamais un acte isolé. C'est une première fissure dans le béton, dans le mur de la justice sociale qui ne tarde jamais à s'effondrer sous le poids de l'indifférence puis de la négligence. C'est un peu ce qui nous fait peur. On voudrait pas que ça fasse un peu comme aux États-Unis, avec une prochaine cible, la droite, là, les trompistes qui veulent s'attaquer aux personnes handicapées.
Oui.
Alors, on voudrait pas que ça arrive au Canada. Alors, on espère que c'était une annonce d'un petit gouvernement pour faire face à l'élection et que par la suite, si jamais M. Carney est élu premier ministre lors de la présente élection, ben, qu'il pourra revenir en arrière. Chose certaine, soyez assurés que nous, on poursuit nos commentaires et nos rencontres avec les principaux intéressés pour faire en sorte que ce ministère revoie le jour à Ottawa, que ce soit M. Poilievre ou M. Carney qui soit au pouvoir.
Oui. Malheureusement, on sent dans l'élection actuelle que les personnes qui se sont handicapées là, sont très peu représentées et que c'est pas le sujet sexy de l'heure.
Non, ben écoutez, effectivement, vous avez raison. Même en 2025, c'est pas sexy de parler de personnes en situation de handicap. Sauf que parfois, c'est winner hein, de prendre une photo avec une personne en fauteuil roulant.
Ah, ça, c'est toujours winner. Ça, c'est toujours winner.
Ça, c'est winner pour les caméras, pour les journaux, tout ça. Ça, c'est winner. Mais après ça, quand vient le temps là, de sortir les sous puis d'investir, on le voit un peu aussi avec le gouvernement Legault. Je fais un petit entrefilet oui. rapidement avec les coupures dans le PAD, les coupures dans le CIT, les coupures dans le PSL. Bref, on dirait que c'est un acharnement de s'attaquer toujours aux personnes en situation de handicap, aux aînés, aux personnes à faible revenu. On est sur une drôle de tendance au Canada
oui,
comme au Québec actuellement. Là, c'est ce qui est malheureux. Puis je vous dirais que c'est pour ça que nous, des organisations comme nous, ben, on se bat pour faire améliorer le sort des personnes en situation de handicap.
Malheureusement, c'est nécessaire. Vous lui avez dit, il y a quand même vraiment une pente descendante là, qui est prise par nos gouvernements. On en parlait avec la personne avant vous également, M. Vaillancourt. Il y a vraiment une volonté de couper dans les services, puis on dirait que les personnes en situation de handicap sont ceux qui écopent le plus. Entre autres parce que peut-être leur point au niveau électoral n'est pas très important. C'est pas une excuse, là, ce que je suis en train de vous dire, évidemment, là. Mais on dirait que c'est comme ça que c'est vu par les gouvernements quand même. Là.
Ah ben, tout à fait, vous avez raison. À moins que si la conjointe de M. Legault ou la conjointe de M. Carney ou de M. Poilievre était en fauteuil roulant...
Oui, là, ce serait autre chose.
Oui, ça serait peut-être autre chose. Tant et aussi longtemps que ces élus ne sont pas concernés par la cause, on dirait que ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête, là, malheureusement. Là.
Oui.
Alors, c'est pour ça que nos forces de frappe doivent être bien mesurées. Il faut s'adresser aux bonnes personnes. Il faut avoir du timing un peu dans nos revendications. Vous savez, cette année, c'est la première année que je n'assistais pas au huis clos du dépôt du budget Girard parce que j'avais sondé un peu dans différents ministères en sachant très, très bien qu'il n'allait rien avoir d'extraordinaire qui va être annoncé pour les personnes en situation de handicap. L'excuse qu'on nous disait en 2020, c'était la pandémie, et maintenant, c'est Donald Trump avec les tarifs douaniers. Oui. Alors, vous comprenez, on est obligé de geler des programmes pour faire en sorte qu'on puisse répliquer ou attaquer aux tarifs douaniers de Donald Trump. Alors, on en est rendu là. Il y a toujours des bonnes excuses comme ça qui font en sorte que des programmes aussi importants que la prestation canadienne ou autres programmes, que je disais tantôt, oui. là, soit le PAD, le PSL ou le contrat d'intégration au travail,
oui.
ben, il faut que ce soit maintenu, ces programmes-là.
Malheureusement, au quotidien, monsieur, madame, tout le monde ont quand même là, des besoins. Les personnes en situation de handicap ont quand même des besoins, nonobstant des tarifs douaniers. Ça les aidera pas à avoir des services pour répondre à leur handicap. Là.
Non, exactement.
Ils n'ont pas moins de besoins.
Non, exactement. Puis écoutez, récemment, on apprenait aussi qu'il y a un autre programme qui va être gelé au gouvernement du Québec avec Renault Région.
Oui, Renault Région.
C'est 1000 familles qui étaient en attente, sur la liste d'attente. Alors, c'est des programmes qui servaient à permettre d'adapter des résidences.
Des résidences, oui, pour les personnes, pour leur permettre de rester à la maison plus longtemps. Alors.
C'est ça.
Et d'être autonome, là, oui.
C'était pas du luxe, c'était pas du superflu.
Non,
on installait des piscines hors terre puis des garages doubles avec ça. Là. Ça faisait en sorte qu'une toiture qui coule ou encore une porte qui coince ou quoi que ce soit, qu'on puisse la réparer puis de rester le plus longtemps possible à son domicile. C'est ce que le gouvernement veut, que les gens restent le plus longtemps
mais
possible.
Mais ils ne donnent pas les ressources. Hein.
Mais encore faut-il, vous avez raison, de leur donner les mesures possibles. Exactement.
Et on dirait que c'est deux poids, deux mesures, là. C'est-à-dire que ça sauverait énormément d'argent que de réinvestir dans ces programmes-là de façon massive. Mais c'est quelque chose qu'on semble oublier. Et d'un autre côté, ben, on n'a pas de place dans les CHSLD, on n'a pas d'endroit où mettre les personnes en situation de handicap qui sont adaptées à leurs besoins. Donc, d'un côté, on se bloque des deux côtés. Là.
Oui, exact. Vous avez raison, parce que si on ne s'attend pas à ces programmes-là, ben toutes ces personnes-là risquent de se ramasser dans des CHSLD, et c'est ce qu'on ne veut pas. On a vu ce qui s'est passé dans la pandémie. Moi, à partir de 5000 décès, j'ai arrêté de compter. Là.
Oui, ben moi aussi, j'arrêtais de regarder, là, parce qu'évidemment, c'est désastreux, et ça ne répond pas aux besoins de la plupart des personnes en situation de handicap, en plus de coûter très cher au gouvernement. Donc, il n'y a pas d'économie qui est faite à ce niveau-là. Là.
Non, puis écoutez, le calcul est facile à faire. Je l'ai fait, moi, à un moment donné, comme ça, à crayon levé sur le coin du bureau. Puis ça, le gouvernement, s'il faisait ses calculs, il se rendrait compte qu'actuellement, dans la situation avec le programme PAD, exemple, qui évite que ces personnes se ramassent en CHSLD, c'est des économies quand même de 1,5 milliard de dollars que le gouvernement fait par année.
Oui.
Ils devraient peut-être y repenser deux fois. Là.
Oui, mais on dirait que, je ne sais pas, ils n'ont pas les mêmes calculs que nous ou leurs comptables ne sont pas les mêmes que les nôtres, je ne sais pas. Il arrive quelque chose au niveau du message qui ne se rend pas. Parlons en terminant donc, la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. On en a parlé un petit peu au début de l'entrevue. Ça va être mis en place... au mois de juillet, mais il y a quand même plusieurs critiques. Donc, c'est un pas en avant parce que c'est un début, bien sûr, mais c'est trop peu pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Vous vous positionnez à quel endroit, au CAPVIS, par rapport à ça?
Bien, écoutez, on est quand même, faut pas nier, on est content là, quand même qu'on ait eu gain de cause dans la prestation de canadienne à ce niveau-là. Sauf que vous avez raison, entre le moment où la loi est devenue une loi avec la sanction royale en 2023 et toutes les études et les consultations qui ont précédé à partir de 2020, 5 ans plus tard, à 200 $ par mois puis 2 400 $ par année, je suis pas sûr qu'on va améliorer le sort de ben des personnes.
Non.
Il y a personne qui va gagner à poule aux œufs d'or avec des montants comme ça. Alors, malheureusement, c'est ce qu'on espère. C'est les discussions qu'on avait eues récemment avec Mme Kera. Ça portait là-dessus, justement, en décembre et même en janvier. Je m'étais entretenu avec les membres de son cabinet. Et puis, on devait avoir un retour sur peut-être pas une rétroaction, mais au moins un ajustement de ce montant-là. Là.
Donc, et là, avec McCartney, ces récentes coupures, on s'attend pas à avoir une rencontre dans les prochains mois, j'imagine. Là.
Non, écoutez, l'excuse est facile. Actuellement, ils sont en campagne électorale. Écoutez, si on veut avoir des promesses d'ivrogne, c'est peut-être le bon moment, mais nous, on veut plus que ça. On veut des vraies promesses. Donc, à ce moment-là, on va peut-être falloir patienter avant l'élection d'un nouveau gouvernement.
Oui, on verra avec le gouvernement qui sortira. J'imagine qu'à ce moment-là, là, tout dépendant du gouvernement, ben ça va changer l'orientation parce qu'ils n'ont pas les mêmes orientations l'un et l'autre. Et en même temps, on l'a dit, le gouvernement Carney ne semble pas particulièrement intéressé par les personnes en situation de handicap. Donc, de votre côté, j'imagine que vous attendez les élections, la fin des élections, que vous allez revenir à la charge là, par rapport à ce dossier-là, entre autres.
Oui, ben on espère qu'il y a des joueurs essentiels qui vont revenir à la table du Conseil des ministres, comme entre autres Jean-Yves Duclos. Nous, le Cap Vie, nous sommes situés à Québec. Donc, M. Duclos a été un joueur très, très important lors de l'attachement, puis la façon de convaincre aussi les parlementaires de signer cette prestation canadienne. Il a travaillé beaucoup avec Mme Kamal Kera, qui était à ce ministère à ce moment-là. On espère qu'un joueur comme lui sera amené au Conseil des ministres. Puis on espère peut-être qu'une Mme Kera ou une autre personne sera mutée dans le retour de ce ministère de la diversité, de l'inclusion et des personnes en situation de handicap. On a beaucoup d'espérance, mais écoutez, on souhaite un avenir beaucoup plus rose pour les personnes en situation de handicap, parce qu'actuellement, ça augure bien mal.
Et on a aussi un balado qui s'appelle « Reconnectons ensemble » que le CAPVI présente.
Oui, ben c'est gentil d'en parler. Effectivement, Reconnectons ensemble. C'est un balado que je co-anime avec Geneviève Morin, qui est en fait en situation de handicap, mais également qui est aux projets spéciaux et aux communications chez nous. Et puis, voyez, le premier épisode est sorti. C'était au niveau de l'accessibilité des restaurants. Et c'était un complément d'information sur le reportage de l'émission La Facture qui ont sorti il y a à peu près un mois et demi, il y a environ. On trouvait qu'il manquait un petit bout intéressant sur le côté positif et des programmes qui existent pour faire en sorte que les restaurateurs puissent rendre le commerce accessible et adapté. Et puis là, ben, on est à l'œil de lancer notre prochain épisode qui sera sur le transport adapté.
Oh, très, il y a beaucoup à dire sur aussi. Le transport adapté.
Oui, voilà. Notre transport adapté au Québec, vous le savez, comme moi, n'a jamais été si mal adapté. Hein? On a un problème, le système est malade et comment on peut l'améliorer? Alors, il y a ça. Puis, on travaille actuellement sur un autre balado sur les soins à domicile, les systèmes de santé en comparatif avec d'autres provinces ou d'autres pays, faire en sorte qu'on puisse améliorer les soins à domicile des personnes en situation de handicap. Alors, beaucoup de travail, mais on a beaucoup de plaisir aussi.
C'est votre troisième saison et vous manquez pas de sujet. Il y a beaucoup de choses à parler. Et avec l'actualité, là, on me l'a dit, là, qui parle beaucoup de coupures pour les personnes en situation de handicap, vous avez encore beaucoup de travail, mais beaucoup de sujets que vous pourrez parier dans ce balado-là.
Absolument, pour tenter de faire bouger ce gouvernement qui fait trop souvent la sourde oreille.
Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le balado et pour voir toutes vos actions. Où est-ce qu'on peut aller?
Oui, ben en fait, sur capvie.org, dans le fond, ça se trouve à être notre site Internet. Ça s'écrit Capviche, .org, mais on prononce Cap Vie en raison du cap sur la vie hein, de nos personnes en situation de handicap. Et aussi, ben, les abonnés, justement, peuvent recevoir aussi des revues de presse qu'on monte tous les 15 jours qui touchent le monde handicap. S'il y a un bon coup en Afrique, ben, on le partage au Québec. Hein. Ça peut inspirer d'autres organisations. Oui. Puis aussi, ben, les gens peuvent recevoir une infolettre aussi une fois par mois. Donc, on tient à informer nos membres de nos différentes activités.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis pour les personnes que ça intéresse, votre site Internet est rempli d'informations et de ressources.
Absolument. Merci beaucoup, Mme Pellerin.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
On termine avec la revue de presse. Et pour commencer notre revue de presse, quoi de mieux que de parier de Donald Trump? Monsieur Salgado nous a un peu mis à table hein, Donald Trump et son gouvernement. Et il y a une montée de la droite aussi hein, par rapport à tous ceux qui défendent le gouvernement de Donald Trump, qui sont des alliés. Il y a vraiment un coup qui a été donné contre les personnes en situation de handicap. Là, il y a des propos qui sont dérangeants, qui sont même très inquiétants contre les personnes en situation de handicap, là, qui s'apparentent à de l'eugénisme, là, c'est-à-dire un contrôle de la population, un contrôle génétique là, de la population. Entre autres, si certaines personnes donc appellent à complètement stériliser les personnes en situation de handicap parce qu'ils auraient des gènes, et je cite ici, de faible qualité. Il y a aussi donc dans les CHSLD des coupures et des gens qui ont pris la parole contre la présence d'interprètes en langue de signes dans les conférences de presse parce que ce serait dérangeant pour la personne qui écoute, qui n'a pas besoin d'interprètes en langue des signes. Il y a également donc des propos donc, de la sous-secrétaire aux affaires publiques du gouvernement Trump, donc quand même quelqu'un de proche dans le gouvernement qui incite au contrôle de la population, donc à la stérilisation de masse des personnes en situation de handicap. On s'entend pour dire que c'est quand même grave, hein? C'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas cru voir de la part d'un autre gouvernement, mais on dirait que de la part du gouvernement Trump, c'est moins... je devrais dire que c'est quelque chose qu'on attendait, c'est-à-dire un coup contre les personnes en situation de handicap, mais c'est pas parce qu'on l'attendait, évidemment, là, que c'est plus respectable et qu'il faut laisser faire, bien sûr. Parce que ça pourrait évidemment là, dégénérer au niveau des droits des personnes en situation de handicap. Donc, il faut surveiller ça de près. Hein. On parle de plusieurs coupures qui vont être faites dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et il va falloir probablement une levée de bouclier aux États-Unis pour défendre les droits des personnes en situation de handicap là, sous le gouvernement de Donald Trump. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines. Aussi, on a un article qui vient de The Economist qui nous parle donc des plateaux de travail. Donc, les plateaux de travail, là, c'est des endroits où on insère socialement des personnes en situation de handicap, particulièrement des personnes en situation de handicap intellectuel qui sont quand même importants. Donc, des personnes qui ne pourraient pas être en situation d'emploi normale, donc en situation d'emploi dans les magasins de façon salariée traditionnelle. Hein. Donc, on a des plateaux de travail qui accueillent ces personnes-là. Et là, toujours aux États-Unis, donc, The Economist a sorti un article pour se questionner hein, sur la présence de ces plateaux de travail-là, mais surtout sur le salaire qui est donné aux personnes en situation de handicap. Donc, on parle de salaire plus ou moins là, 3 $ par semaine pour 10 heures de travail. Donc, évidemment, c'est très peu. Hein. On a aussi des plateaux de travail au Québec et on fait face aux mêmes enjeux. Hein. Les personnes en situation de handicap sont soit pas payées, soit très peu payées. Parfois, ils reçoivent des billets de bus pour en réponse à leur travail, pour les remercier de leur travail. Hein. Et on s'entend, là, payer son épicerie avec des billets de bus, c'est relativement difficile. Donc, il faut se questionner parce qu'évidemment, ces personnes-là ne peuvent pas être en situation d'emploi dans des commerces traditionnels, mais est-ce que c'est une excuse pour payer ces gens-là à 3 $ par semaine ou ne pas les payer du tout, que ce soit aux États-Unis ou au Québec? En même temps, les premières personnes qui viennent à la défense de ce type de plateau de travail et de la façon dont ils fonctionnent, c'est les parents de ces personnes-là. Et je vous explique, en fait, c'est que les parents de ces personnes-là disent « Si on ferme les plateaux de travail, mon enfant n'aura plus d'endroit où aller travailler. Okay? » Donc, j'aime mieux qu'il travaille à 3 $ par semaine. Ça lui permet d'avoir des gens, ça lui permet de normaliser sa situation, d'apprendre quelque chose, de pouvoir sortir de la maison. Donc, je préfère ça au fait de fermer les plateaux de travail. Donc, c'est vraiment un questionnement à avoir, hein, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort de ces personnes-là sans pour autant fermer complètement les plateaux de travail et relayer donc ces personnes-là à la maison. Les plateaux de travail ont quand même des points positifs, c'est-à-dire que ça aide les personnes à sortir de la maison, ça leur apprend un métier quand même. Mais il faut quand même se questionner à savoir est-ce qu'on le fait de la bonne façon? Est-ce que les plateaux de travail doivent être revus? Est-ce que y aurait façon de mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de mieux répondre à leurs droits sans pour autant fermer les plateaux de travail? Donc, c'est une question qui est posée par des économistes et que je vous pose également là, parce que, comme je l'ai dit, la situation au Québec est sensiblement la même. Donc, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'appelle à la réflexion pour les personnes que ça pourrait intéresser. Et évidemment, il y a énormément là, d'universitaires qui travaillent sur ce type d'enjeux qui pourraient se prononcer et qui pourraient trouver là, différentes solutions au plateau de travail. Et en terminant, donc, on parle des terminaux de paiement qui sont inaccessibles. C'est le RAM, donc nos amis du RAM qui ont parlé de ça là, la semaine dernière. Les terminaux de paiement, donc l'endroit où on met notre carte de crédit là, pour payer au paiement là, sans contact, entre autres. Il y a des personnes en situation de handicap là, qui peuvent pas, évidemment, se rendre jusqu'au plateau de paiement parce qu'ils sont trop hauts. Dans la plupart des cas, ils sont trop hauts, ils sont sur un comptoir. Donc, les personnes en situation de handicap ne peuvent pas nécessairement y accéder. Donc, ils doivent donner leur carte à quelqu'un d'autre. Quand ils doivent payer avec un NIP, ils doivent confier leur NIP à quelqu'un. Hein. C'est pas nécessairement au niveau de la sécurité bancaire, c'est pas nécessairement quelque chose à privilégier, mais il faut comprendre que les personnes en situation de handicap, parfois, n'ont pas le choix. Et donc, c'est tout simple. Hein. Mais ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir au niveau de l'autonomie des personnes en situation de handicap, d'être capable de payer dans un magasin sans avoir confié son NIP à quelqu'un d'autre. C'est une bonne base au niveau de l'autonomie et des personnes en situation de handicap. Donc, il faudrait réfléchir au fait qu'un commerce accessible, ça passe évidemment par une rampe à l'entrée, ça passe par des portes assez grandes, mais ça passe aussi par l'accessibilité des terminaux de paiement pour que les personnes en situation de handicap soient capables de payer par eux-mêmes leurs achats. Donc, encore une fois, j'en ai pas les réponses, mais je vous offre de réfléchir à des moyens pour rendre la société plus inclusive par ce genre de petits gestes-là. C'est tout pour la revue de presse. Merci à Mathieu Tessier qui était de retour à la régie. Merci à Claire Guérin à la recherche. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Sans détour. Bonne semaine tout le monde.